Chapitre 5. Première rencontre avec Sir James Primrose. Repas du soir. Une nuit d'Orient. Récit sur la terrasse. Épisode de l'expédition d'Égypte. Les soldats français et les savants. À propos de la jambe de bois du général Caffarelli. Le Nil. Chébresse. Les Mamelouks. Bataille des pyramides, la caravane, une halte, le costume arabe, Alep, un marchand de Syrie, arrivé au Caire, un esclave noir, une maison arabe, Kadour le Touareg, hésitation, le Touareg raconte son séjour à Marseille, une bague, l'association des 500 000, le bazar, premier effet des vertus de la bague, retour à la caravane, un mystère, le visiteur, on se remet en marche. Ibrahim s'empressa de présenter les nouveaux venus à Sir James Primrose. « Sir, lui dit-il, voici trois Français que j'ai rencontrés là-bas à l'endroit où je faisais mon égade. Allant au Caire à pied, ils ont fait route avec moi. En chemin, je leur ai parlé de la chasse aux crocodiles et ils ont témoigné le désir de voir celle que vous faisiez. C'est ainsi que l'un d'eux a été amené à devenir votre aide. » L'Anglais venait de mettre pied à terre. Il étreignit fortement la main de Robert Kergorieux. « Ma foi, mon jeune monsieur, lui dit-il, souffrez que je vous remercie. Vous avez achevé l'horrible lézard, ce qui a été d'un grand secours pour ma monture fort effarouchée. Ce service ne sera pas oublié. J'espère bien que ce sera à charge de revanche. » « Mais que va-t-on faire du crocodile ? » demanda Claude Marteau, de plus en plus étonné à la vue de ses aventures. « Il en coûterait trop cher de le faire empailler et de l'envoyer ensuite par mer au Muséum de Londres ou à celui de Paris, » répondit Sir James Primrose. « Laissons-le où il est. »«
C'est juste, » répliqua Ibrahim. « Sa chair fraîche nourrira trois de ses ennemis qui en sont friands, l'Ichneumon, la tortue molle et le vautour. »
En même temps, il montrait du doigt les ruines du petit palais de la fille de Pharaon qui était devenue sa résidence.
« Quand nous arriverons près de ces vieilles murailles, » reprit-il, « le jour commencera à baisser. L'Oriental vous offrira à tous les quatre son repas du soir et un gîte pour la nuit. »
En effet, une fois qu'on fut arrivé à l'habitation, sans doute fort délabrée, mais où il y avait encore quelques pièces assez bien conservées, le marchand d'eau donna à son esclave des ordres pour qu'on fît honneur à ses hôtes.
« Vous n'avez, dit-il à ces derniers, qu'un très mince souper, une vraie collation d'Égyptiens, mais le tout sera offert de bon cœur. »
On servit au milieu de la terrasse, non sur les dalles, mais sur un vieux tapis de Turquie, un gâteau de riz, des oignons grillés sous la cendre, des tranches de pastèque et de l'eau de diverses qualités.
« À Paris et à Londres, reprit Ibrahim, on ne comprendrait pas un pareil repas. »« Autre pays, autre festin, » répondit Sir James Primrose. « Chez nous autres Anglais, où le soleil ne se montre que pendant un quart d'heure de l'année, il faut des viandes noires et des boissons qui fortifient. Ce doit être nécessairement le contraire sous des cieux resplendissants où une généreuse chaleur tient lieu de toute chose. »
Cette terrasse sur laquelle il se trouvait dominait toute la contrée. De cette hauteur, l'œil plongeait dans l'espace à 15 000 de distance et s'arrêtait jusqu'aux tours et aux minarets du Caire. Tout en mangeant, Ibrahim faisait remarquer à ses invités cet admirable panorama de sable, d'oasis, de monticules, de villages, de vallées et de petits bouquets de palmiers. La nuit, qui descendait sur la terre, rayonnait déjà de 1000 lueurs célestes. En Orient,
Le ciel est tout parsemé de points d'or comme un manteau de roi. L'aspect d'une belle nuit saisit l'âme d'un sentiment religieux et d'une vague rêverie.
« Ce spectacle est sans doute nouveau pour vous, » dit Ibrahim.
« Pour moi, il est d'autant plus rempli de charme qu'il rappelle sans cesse à ma mémoire les souvenirs de mon enfance. C'est là qu'en 1798, c'est sur cet immense damier qui se déroule sous nos yeux, qu'étant enfant, j'ai assisté à cette grande journée qu'on appelle la bataille des pyramides. » L'esclave venait de servir le café. C'était le moment où la langue se délie et où l'oreille prend plaisir à écouter. On pressa Ibrahim de raconter ce qu'il avait vu.
« À toutes les grandes pages de l'histoire, lui dit Sir James Primrose, qui sont vraies sans doute, mais qui sont aussi trop pompeuses, j'ai toujours préféré le simple récit des témoins oculaires d'une action. « Allons, Ibrahim, vous qui savez si bien faire un repas oriental à des hommes d'Occident, poussez jusqu'au bout le culte de l'hospitalité et dites-nous les épisodes de cette fameuse bataille à laquelle vous avez assisté. »
Ibrahim vida sa tasse de café noir et parla comme il suit.
« Vous savez que j'étais enfant, âgé de 10 ans tout au plus, lorsque les Français abordèrent à Alexandrie. Mais les débuts de la campagne n'avaient pas été heureux. Bonaparte décidait que, pour aller au Caire, il fallait que l'armée prît par le désert de Damanhour, sur la lisière duquel nous sommes. Un matin, mon père et moi nous traversions ce pays. C'était au moment même où 40 000 soldats se mettaient en marche. Ces tambours, dont je n'avais jamais entendu le son, me firent tourner la tête. Au même moment, un officier d'état-major accourait à nous au galop de son cheval. J'ai su depuis son nom, celui du général Junot, futur duc d'Abrantès. Il fit signe à mon père et à moi de le suivre. On nous conduisit alors devant le général Bonaparte, qui fit de l'homme un éclaireur et de l'enfant une espèce de page, attaché à son service. Au reste, je vous ai déjà parlé de ce détail. À 10 ans, on a bonne mémoire. J'appris vite une centaine de mots de la langue française. C'est vous dire que je fus à même de comprendre tout ce que je devais voir et entendre. L'armée était d'abord fort gaie. Ces 40 000 hommes fredonnaient des chansons de leur pays. Cependant, quand ils se virent engagés dans cette plaine sans bornes, avec un soleil brûlant sur la tête, un sable brûlant sous les pieds et point d'eau, point d'ombre, ils se dirent « Quel pays est donc celui-là » Un vieillard à jambes de bois, général et savant tout ensemble, le général Caffarelli Dufalga, leur disait « Mes amis, c'est l'Égypte, c'est le pays le plus fertile du monde !» Ils ne voulaient pas le croire et haussaient les épaules, comme pour donner à entendre que le bonhomme commençait à radoter. De temps en temps, à l'horizon, ils voyaient apparaître par centaines des cavaliers vêtus d'une manière brillante, armés de longs cimetières et caracolant plus pour les exciter que pour les attaquer. C'étaient les Mamelouks, faisant partie des 10 000 cavaliers des baies circassiens qui oppressaient en ce moment l'Égypte et la traitaient en pays conquis. Ces gaillards-là se sauvent comme si leurs chevaux avaient des ailes aux pieds, reprenaient les soldats. Nous ne pourrons jamais nous rencontrer avec un ennemi qui ressemble à un oiseau. Bref, le mécontentement prenait toutes les formes. La première ville à rencontrer était Damanhour. On avait rapporté au général que l'armée y trouverait ce dont elle avait besoin. On y trouva un amas de huttes, des arabes déguenillés, les puits comblés. « Ah !» s'écriaient les soldats pleins de tristesse et de goguenardise. « Voilà cette Égypte qu'on nous avait représentée comme une terre promise !» Mon père et moi, interrogés, nous répondions que le désert ne s'étendait pas partout. Au troisième jour de marche, on trouva des puits en meilleur état, des villages moins misérables, du blé, des lentilles,
de la volaille. Mais c'était égal, les soldats n'en démordaient pas. L'Italie valait mieux, disait-il. Ils n'avaient en effet ni moulin pour moudre le blé, ni beurre, ni sel pour faire la cuisine, ni tabac pour fumer leurs pipes. En vain leur assurait-on que cette contrée était un jardin délicieux, qui l'emportait même sur la Lombardie. « Comment croire que c'est un si beau pays, disait-il, puisqu'on ne peut ni y manger la soupe, ni y boire la goutte ?» Puis, comme il s'était aperçu que, dans tous les endroits où il y avait des vestiges d'antiquité, on s'arrêtait pour les fouiller avec soin, c'était aux membres de la commission scientifique qu'ils s'en prenaient de leur mauvais sort. « Ce sont tous ces savants qui, pour faire leur fouille, ont donné l'idée de l'expédition. » Caffarelli du Falga, qui joignait la curiosité d'un érudit à la bravoure d'un soldat, passait à leurs yeux pour avoir trompé Bonaparte en l'attirant en Égypte. « Lui, disait-il, en faisant allusion à la jambe que Caffarelli avait perdue sur le Rhin, il peut bien se moquer de ça, il a un pied en France. » « Taisez-vous, nous marchons sur le Caire, et rien ne vous manquera !» leur disait le général en chef en sortant de Damanhour. Un matin, un long cri d'allégresse retentit dans toute l'armée. « Voilà le Nil !» avait dit le général en chef en ôtant son chapeau. « Voilà le Nil !» répétaient les soldats. « Désormais, nous aurons toujours à boire !»« Voilà le Nil ! À l'avenir, nous pourrons même prendre des bains !» Sur le champ, Bessières ayant donné le signal, les officiers et les soldats se déshabillèrent pour entrer dans l'eau jusqu'au cou. On s'établit ensuite pour passer la nuit sous de beaux sycomores, et l'on soupa voluptueusement d'une espèce de melon d'eau, très savoureuse et très rafraîchissante, qui croît sur les bords du grand fleuve. Ce jour-là, on en cueillit 20 000, et il n'y paraissait pas. Le lendemain, au point du jour, il fallait se remettre en marche. Qu'importait à l'armée? Elle n'était plus triste. Elle voyait qu'en effet l'Égypte était un des plus beaux pays du monde. « Soldats, les Mamelouks nous attendent en vue de Chébres, » disait le général en chef. « Partons !» Chébres est un village, désormais fameux, peu distant du Caire. Tenez, vous pouvez le voir d'ici. Quand on y arriva, on commença à apercevoir l'admirable cavalerie des baies avec ses riches costumes et ses belles armes. Les Mamelouks reprirent les allures d'une moquerie provocante. « Nous verrons tout à l'heure quelle figure ils feront devant nos carrés, » disait le général en chef. L'armée française se composait de 5 divisions. En 5 minutes, le général en forma 5 carrés, 5 citadelles hérissées de fer et vomissant la mort. « Attendons-les, » dit-il ensuite, en montrant les Mamelouks. Mourad Bey s'avance à la tête de 4 000 cavaliers. Voyez-vous le bruit et le spectacle d'une telle masse? Ils arrivaient avec impétuosité, d'abord en criant, puis en déchargeant leurs pistolets, en troisième lieu en tirant leurs formidables sabres. Les fantassins ne bougeaient pas. Jugez de la surprise de Mourad Bey. Ni lui ni les Mamelouks ne pouvaient supposer que des hommes venus d'Europe, à pied et très simplement vêtus, pourraient victorieusement tenir tête à la première cavalerie du monde. Sous le coup de ce premier insuccès, Mourad Bey se retira dans son camp afin d'y rallier toutes ses forces, c'est-à-dire 40 000 hommes. On le suivit entre le Nil et les pyramides, que dorait le soleil levant. À la vue de ces constructions, de ces muets et immobiles témoins des plus grandes vicissitudes humaines, l'armée s'arrêta, comme saisie de curiosité et d'admiration. L'armée tout entière battait des mains. Placé auprès du général en chef, je le regardais. Son visage rayonnait d'enthousiasme. « Soldats ! » s'écriait-il, « songez que du haut de ces monuments 40 siècles vous contemplent !» Quels mots, quels efforts d'éloquence eussent été plus dignes de la circonstance et du lieu ! À 3 heures de là, tout était fini. Les janissaires, les spahis, les mamelouks étaient ou broyés par les 5 carrés français ou mis en fuite. Junot, courant à cheval, disait ce que rapportait cette victoire. 40 pièces d'artillerie, 700 ou 800 tentes, 800 chameaux, 1000 chevaux superbes et d'immenses provisions de bouche furent le gain de la journée. Sur le champ de bataille, les soldats trouvèrent aussi des tapis, des porcelaines, des cassolettes, des armes de luxe, des vestes brodées, des châles de cachemire et des bourses contenant 400 et même 500 pièces d'or. Il n'en fallait pas tant pour les réconcilier avec l'Égypte. Aux portes du Caire, que l'armée pressait déjà, on apercevait une magnifique résidence. C'était le palais de Mourad Bey, le chef des Mamelouks. Le général Bonaparte y établissait son quartier général. C'est dire que je l'y suivis. À peine entré, en même temps que l'état-major, un jeune officier, me prenant par la main, me conduisit dans les jardins. Là, au pied d'un figuier, je trouvai un homme tout sanglant et sur le point de rendre le dernier soupir. Je reconnus mon père. « Ibrahim, me dit-il, je vais mourir. » Il y a une heure, un gros de Mamelouk, m'ayant aperçu près des lignes françaises, m'a frappé sans pitié. « Tiens, fais-la, disait-il, et l'un d'eux ajoutait « Te voilà frappé à mort, nous frapperons de même ton fils !»« Or, ajoutait mon père, comme ils nous confondent à tort, toi et moi, dans la même accusation de trahison, jure-moi par le nom du prophète que tu éviteras leurs coups en restant parmi les Français. » Je jurai, les yeux tout en larmes, et mon père expira. Depuis lors, je n'ai pas quitté l'armée. J'ai vécu tour à tour sous la tente de Kléber et sous celle de Dessay. J'ai vu le siège terrible de Saint-Jean d'Acre. Lors de l'évacuation, j'ai été l'objet d'une stipulation particulière. Il a été convenu qu'on épargnerait mes jours et, en effet, je n'ai pas été inquiété. Ibrahim termina là son récit. Il était tard. « Voici le moment de songer au sommeil, » dit Sir James Primrose. Les étrangers se disposaient à gagner les pièces que l'Oriental mettait à leur disposition pour passer la nuit, lorsqu'en jetant un dernier coup d'œil du haut de la terrasse, Jacques et ses deux jeunes amis poussèrent un cri de surprise. « Ibrahim ! Ibrahim ! » disait-il. Le marchand d'eau accourut. « Qu'y a-t-il, mes jeunes seigneurs ?» Ils lui montrèrent du doigt à l'horizon une longue traînée de lumière. On aurait dit, à distance, un immense serpent de feu s'avançant à travers les sables et les plis du Nil, jusqu'à l'endroit même où il se trouvait en ce moment. Quoique l'obscurité de la nuit s'étendît sur l'espace, on distinguait dans l'éloignement des armes, des chevaux, des turbans et des chameaux. Cette vision avait l'air de ne pas s'arrêter. « Dites-nous, Ibrahim, reprit Robert Kergorieux, « ne dirait-on pas d'une nouvelle armée qui vient conquérir la terre d'Égypte ?» Le fils du fellah ne put s'empêcher de sourire. « Eh non, mes chers enfants, répondit-il avec douceur, ce que vous prenez pour une armée n'est autre chose qu'une caravane. » Puis, comme il ne paraissait pas bien comprendre, il ajouta « De tous les points de l'Afrique, les musulmans, qui ont le désir de faire leur salut, se groupent ainsi afin d'aller en masse faire une station auprès du berceau et du tombeau de Mahomet, c'est-à-dire à Médine et à la Mecque. Pour accomplir ce pèlerinage, il faut nécessairement traverser ou longer le Caire, frôler la chaîne du Mokattam, parcourir le désert jusqu'à Suez, reprendre les sables près du mont Sinaï, traverser la mer Rouge ou faire double circuit et s'arrêter à Djeddah, la première des villes saintes. Djeddah est une des villes que nous avons le projet de voir, interrompit Jacques. Eh bien, répliqua l'Oriental, demain, au jour, la caravane arrivera devant ces ruines et s'y arrêtera pour me demander à acheter de l'eau. C'est l'usage des pèlerins. Tenez-vous prêts alors à suivre mes instructions, et je vous ferai admettre parmi les croyants qui font le grand voyage. » Ibrahim avait dit vrai. Le lendemain, au moment où les premières lueurs du levant empourpraient le ciel, nos voyageurs étaient réveillés par un bruit inaccoutumé. Des chants nasillards et graves se mêlaient au piétinement sonore des chevaux et des dromadaires sur le sable. « Allons, Robert, lève-toi. Allons, Claude, debout. Voici les pèlerins, » disait Jacques. Qu'on se figure une procession de 6 000 orientaux précédant et suivant des tentes, des chariots et des cavales. Le costume arabe mêlait sa poésie à ce spectacle. Des vieillards, ornés du turban vert, signe d'une naissance illustre, ouvraient la marche, en égrenant pieusement des chapelets d'ivoire entre leurs doigts. Des musulmans plus jeunes se tenaient près d'eux, ayant le fusil à la main ou le sabre au côté. Cela protégeait la marche de la caravane. Quoique tous ces hommes marchassent en rang, comme s'ils avaient été groupés par catégorie, on voyait bien vite qu'ils ne formaient pas une armée, mais plutôt une manifestation religieuse. Au milieu de la colonne, les chameaux, si précieux dans le désert, traînaient d'un pas rapide les fardeaux les plus lourds, les toiles des tentes, les vivres, toutes les provisions. Des cavaliers montés sur des juments de Yémen fermaient la marche. Lorsque la caravane fut arrivée en regard de l'ancien palais de la fille de Pharaon, un des vieillards appela Ibrahim d'une voix grave. Le marchand était prêt. Il se présenta sans retard et fit le salut d'usage. Au même moment, un marabout qui marchait en tête du cortège leva la main en l'air. Cela signifiait qu'on allait faire halte. « Ibrahim, il nous faut de l'eau pour les hommes et de l'orge pour les bêtes. » Ibrahim répondit que sa maison et lui étaient au service des enfants du prophète. Pendant qu'il se mettait en devoir d'aller quérir ce qu'on lui avait demandé, les derniers anneaux de la longue procession arrivaient jusqu'à cette première étape. En même temps, le jour était devenu plus radieux. Le marabout signala la deuxième heure du jour. C'était le moment de la prière. Toute la caravane se mit à genoux sur le sable du côté du soleil levant. Il y avait quelque chose de solennel et d'imposant à voir cette cérémonie simple et pleine de grandeur. De toutes les poitrines à la fois sortit un triple cri, empreint d'un enthousiasme sacré. « Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !» Les pèlerins inclinèrent en même temps le front jusqu'à terre, en signe de soumission absolue. Ceux qui étaient en tête de la colonne purent entendre ensuite le marabout prononcer distinctement ces paroles. « Dieu qui est assis sur les nuages, au milieu des tonnerres, Dieu qui d'un souffle remue les mers à ton gré, Dieu qui soulève d'un geste le sable des déserts, Dieu grand, Dieu juste, Dieu bon, Dieu unique, conduis en paix les pas des croyants jusqu'au berceau et au tombeau de celui à qui tu as dicté tes lois. » Pour la seconde fois, les pèlerins se mirent à pousser le cri sacré. « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu !» Et ils se relevèrent. Ibrahim revint, suivi de son esclave, portant des jarres. On s'installa alors pour boire l'eau du Nil et pour donner à manger aux chevaux et aux dromadaires. Mille conversations s'engagèrent sur le ton le plus familier. Des marchands suivaient la caravane, tant pour se servir de ces hommes d'armes comme d'une protection, que pour y faire du commerce. Ils se mêlaient effectivement au groupe, y causaient ou débattaient les intérêts de leurs négoces. « Messieurs, vint dire le marchand d'eau aux trois Français, « êtes-vous décidés à aller jusqu'aux villes saintes ?»« Sans aucun doute, » répondit Jacques. « Eh bien, tenez, un de ces marchands va vous apporter tout ce qu'il faut pour que vous ayez tous trois le costume arabe, et vous aurez la chance de faire le trajet avec la caravane. » Un tel projet ne pouvait que séduire vivement l'imagination de nos voyageurs. « Acceptez et hâtez-vous, » leur disait de son côté Sir James Primrose. Il pourrait se passer plus d'un mois avant que vous eussiez une bonne fortune égale à celle qui vous est offerte en ce moment. Quant à moi, j'ai le regret de ne pas être de la partie. Mes affaires m'appellent au plus vite à Alep, une ville des mille et une nuits, comme vous savez. C'est un des ports les plus importants de la contrée. Tout le commerce de la Syrie s'y donne rendez-vous. Je n'en ferai pas moins les vœux les plus vifs pour que vous arriviez à bon port. » En très peu d'instants, ce qui avait été projeté se réalisa. Jacques, Robert et Claude prirent le cafetan, le burnous, le turban, les babouches et la ceinture. Il ne leur manquait rien pour avoir l'air de fils de l'Orient. « Suivez-moi maintenant, » dit le marchand d'eau. Ibrahim les présenta alors au vieillard et au marabout qui marchait en tête de la colonne. « Voici, » dit-il, « trois étrangers qui demandent à suivre la caravane jusqu'à Djeddah. Voulez-vous les recevoir parmi vous, Seigneur ?»« Qu'ils soient les bienvenus, si le nom du prophète ne déplaît pas à leurs oreilles, » répondit le plus âgé des vieillards. Jacques voulait parler d'un tribut à payer. « Dans le désert, rien ne se paye que par une parole sortie du cœur, » lui dit le marabout. « C'est une grande erreur que de croire que les pèlerins seuls fassent partie d'une caravane, même sacrée. Nous avons dit tout à l'heure comment un certain nombre de marchands grossissait le nombre des croyants qui s'acheminaient vers le Caire. Il arrive aussi fort souvent que des Européens fassent partie du cortège. On sait qu'il y aurait danger pour eux à traverser isolément le désert, où les bédouins voleurs commettent leurs déprédations. La caravane les protège, mais parfois au prix d'une rétribution d'argent assez considérable. Il ne leur est d'ailleurs imposé d'autres conditions que celle de porter le costume arabe. On se disposait à se remettre en route. À l'une des fenêtres de la vénérable masure, un homme se montrait aux trois amis. C'était Sir James Primrose. « Adieu et bonne chance !» leur disait-il. Robert cherchait en même temps à mettre dans la main d'Ibrahim un petit rouleau d'or. L'oriental le refusa sans rudesse. « Enfant, ajouta-t-il, le Nil suffit amplement à mes besoins. N'a-t-il pas des eaux pures et des pastèques comme au temps où la grande armée se baignait sur ses rives ? Gardez votre or. Hélas, qu'en ferai-je au milieu de ces sables ?» La tête de la colonne s'était ébranlée et commençait à marquer un sentier avec ses sandales. « Adieu, étranger !» dit encore Ibrahim en pressant la main des trois Français. « Adieu, et que les anges qui entourent le trône d'Allah vous conduisent toujours par la main. » On ne fait pas beaucoup de chemin quand on va ainsi par longues files. La caravane marcha tantôt sous le soleil, tantôt près des palmiers. Elle frôlait les villages, elle faisait des haltes fréquentes, soit pour prier, comme nous venons de le voir, soit pour rafraîchir ses provisions, soit encore pour passer la nuit. Dans ce cas-là, on dressait les tentes et l'on allumait les feux du bivac. Il était convenu que les plus jeunes faisaient sentinelle. Des impressions de diverses natures s'emparaient de l'esprit des Européens à la vue de cette vie si nouvelle pour eux. À la longue, à force de causer, ils avaient fini par retenir les mots les plus usités dans la conversation. Vous savez, cette centaine de substantifs et cette dizaine de verbes dont on se sert le plus dans tous les pays du monde. Au bout du 8e jour de voyage, ils étaient déjà à même de comprendre ce qu'on leur disait et de se faire entendre eux-mêmes. La caravane arrivait en vue du Caire lorsqu'ils se lièrent d'une sorte d'intimité avec un certain Ritza ben Hassel, riche marchand des côtes de Syrie, qui faisait le commerce des aromates. À une dernière halte, avant d'entrer dans la capitale de l'Égypte moderne, où il est d'usage de faire relâche, ils eurent à veiller de concert avec lui sur le repos de la caravane. Il se passa alors quelque chose d'étrange. Pour mieux tenir le sabre avec lequel il faisait sa faction, le Syrien s'était enveloppé la main droite d'un lambeau d'étoffe, d'un foulard. Or, à la lueur des feux du bivac, Robert Kergorieux crut voir sur cette étoffe un chiffre qui attira singulièrement ses regards. Ce chiffre se composait des deux lettres H, V. Mais, se dit-il tout intrigué, « c'est là un foulard de mon pauvre Horace !» Puis, s'enhardissant, « Reza ben Hassel, dit-il, y a-t-il indiscrétion à te demander d'où tu tiens ce mouchoir de soie dont tu t'enveloppes la main droite ?»«
Non, par Allah, » répondit le marchand. « Je l'ai acheté il y a 15 jours au bazar de Beyrouth. »«
À qui ?»«
À un matelot barbaresque qui faisait le commerce du corail. »
Robert chercha à poursuivre ses questions et il ne put y réussir. Les Orientaux sont peu communicatifs. Cependant, le peu qu'ils venaient d'apprendre jetait une lueur sur le drame du port de Tunis. Et en rapportant le fait à Jacques et à Claude Marteau, il leur dit « Nous retrouverons bientôt Horace Verpré.
Dieu est grand, Dieu est grand. Allah, Bismillah !»
Les pèlerins saluaient par ses cris les nombreux minarets d'une grande ville.
« Vous voilà aux portes du Caire !» disait le marchand arabe à Robert Kergorieux.
Une magnifique mosquée est construite aux portes mêmes de la capitale. La caravane s'arrêta pour y faire une station. On avait besoin de prendre un peu de repos avant de se remettre en route. Si certains monuments tels que les pyramides et le grand sphinx de granit rose sont de nature à donner une haute idée de l'ancienne Égypte, le Caire, cité de 300 000 habitants, oblige bien aussi celui qui passe à voir que l'Égypte moderne n'est pas destituée de toute grandeur. Le Caire a été longtemps le séjour des califes, successeurs des lieutenants de Mahomet, et, pendant les premiers siècles de l'ère musulmane, il a eu à s'enorgueillir de belles époques. Les sciences, les arts et les mœurs y florissaient. Ce n'est qu'à dater de l'heure où la contrée tout entière a été asservie par les Turcs que sa civilisation a sensiblement baissé. Dans l'origine de cette domination, le sultan de Constantinople envoyait un vice-roi qui pressurait le pays de concert avec les beys des Mamelouks, petits tyrans militaires qui étaient au nombre de 10 000, pour donner de l'or, des palais, de riches tapis, des chevaux de luxe et des armes de prix à cette milice, l'Égyptien et l'Arabe arrosaient les campagnes de leur sueur. Comment ce vieux peuple de bergers, de laboureurs, d'architectes, de mathématiciens et de prêtres aurait-il pu résister à la rigueur du régime qu'on lui imposait? Si la fatigue, le sommeil ou la faim le gagnaient, on répondait à ses plaintes en le faisant mourir sous le bâton ou bien en lui montrant la lame d'un cimeterre. N'était-ce pas, du reste, un juste châtiment des traitements pareils que le même peuple avait fait subir autrefois aux Hébreux? Quoi qu'il en soit, l'Égypte tomba de la servitude dans la dégradation et ne fut bientôt plus que l'ombre d'elle-même. De nos jours, un homme de génie, un officier de fortune, Mehemet Ali, circassien d'origine, envoyé par la porte au Caire en qualité de pacha, s'est fait vice-roi et a eu assez d'énergie pour briser et pour détruire la puissance féodale des Mamelouks. L'histoire raconte avec complaisance ce massacre des dominateurs de l'Égypte, mais Jacques et ses deux jeunes compagnons, tout en promenant leur regard sur la capitale du pays, n'avaient pas assez de loisirs pour s'arrêter à ces détails. Il fallait demeurer quelques heures dans la ville et s'apprêter à reprendre le chemin du pèlerinage. Toutefois, en traversant les longues rues du Caire, il ne pouvait s'empêcher de reconnaître que le vice-roi avait déjà fait oublier par de nombreuses réformes cette boucherie exécutée par ses ordres. L'Égypte n'est pas encore régénérée, tant s'en faut, mais Mehemet Ali avait déjà fait venir d'Europe des ingénieurs, des savants, des artistes. Nos voyageurs crurent remarquer plus d'une figure française. C'est que le pacha et sa famille ont toujours manifesté une prédilection des plus vives pour nos compatriotes. Ils revenaient du consulat français, où ils étaient allés déposer la plainte déjà portée au consulat d'Alexandrie, quand, au détour de la rue du Delta, ils virent un jeune esclave d'Abyssinie s'approcher d'eux d'un air de mystère. Il s'arrêta tout à coup et de la main leur fit signe qu'il avait à leur parler. « Que nous veux-tu, enfant des déserts ?» lui demanda Jacques. « Vous conduire auprès de mon maître, le seigneur Kadour. » Nos trois Européens se regardèrent entre eux. C'était la première fois qu'ils entendaient prononcer ce nom. « Mais quel est ce seigneur Kadour ?» reprit l'ancien matelot de la Foudroyante. « Il passe pour le plus grand chasseur de panthères de toute l'Afrique. »« Où est-il ? Si vous voulez me suivre dans le voisinage, je vais vous conduire auprès de lui. » On conçoit aisément que les trois amis dussent être en proie à un certain mouvement d'hésitation. Pendant un instant, ils se consultèrent des yeux pour la seconde fois. Comment auraient-ils pu s'abandonner à une crédulité absolue ? Ils se trouvaient en ce moment isolés au milieu d'une des plus grandes villes de l'Orient, où tout leur était à peu près inconnu, les usages, la langue, les mœurs, les lois et les hommes. Cette grande cité qu'ils traversaient avait été présentée à leur imagination dans mille et un récits comme ayant été le théâtre d'aventures étranges et terribles. On leur faisait, il est vrai, un bon accueil, mais un passé de fraîche date leur disait qu'il n'est pas toujours bon de s'en rapporter aux apparences. Le pêcheur de corail du port de Tunis avait aussi commencé à se présenter à eux sous la figure d'un bon apôtre. Dieu sait ce qu'il était résulté de ses airs engageants et du ton mielleux de ses belles paroles. Or, n'était-il pas prudent, avant tout, de s'entendre pour se méfier de celui que l'esclave noir appelait Kadour, le chasseur de panthères? D'un autre côté, il n'était pas bon non plus de s'armer son sujet d'une méfiance dédaigneuse ou inquiète. Tout Européen qui traverse l'Orient pour le soin de ses intérêts ou pour le bénéfice de son instruction ne doit pas négliger de se faire des amis sur cette terre où il se trouve autant de dangers que d'enchantements. Jacques, qui en raison de son âge avait nécessairement plus d'expérience que ses deux jeunes compagnons ensemble, comprenait bien que leur pas, à tous les trois, avait besoin d'être protégé à chaque instant à travers tant de contrées où la moindre difficulté née du hasard peut se changer en péril. D'ailleurs, il ne perdait pas de vue l'affaire d'Horace Verpré. Qui savait si le seigneur Kadour n'aurait pas à fournir des renseignements sur les pirates ou même sur le jeune homme? En Orient, où il n'y a cependant pas encore de chemin de fer, les moyens de locomotion sont aussi variés que rapides. Et il n'est pas rare de retrouver, après un parcours de 1500 lieues, l'homme même qu'on a rencontré la semaine passée. Il était à Damas, vous le revoyez dans le Soudan ou en Perse. Pourquoi le seigneur Kadour, le chasseur de panthères, n'aurait-il pas été à même de naviguer avec le corsaire barbaresque? Ainsi, il était sage de ne pas refuser l'offre qui était faite. Le coup d'œil que les trois amis se lancèrent signifiait qu'en tout cas il fallait voir et que, si les circonstances le voulaient, on se tiendrait sur ses gardes. « Eh bien, » reprit Jacques en s'adressant à l'esclave, « conduis-nous au seigneur Kadour. » L'abyssin les précéda de quelques pas. Ils entrèrent avec lui par une petite porte cintrée qui menait à une cour. Au milieu de cette cour, couverte d'herbes et de ruines et entourée d'un mur crénelé, était bâti un pavillon en style arabe avec ogives et terrasses. Après avoir frappé légèrement, le noir vit la porte de cette résidence s'ouvrir. Une sorte de vestibule, tapissé de peaux de panthère et meublé uniquement d'un coffret en bois de cèdre, conduisait à une pièce principale, fermé seulement par une magnifique portière en étoffe de Perse. « Suivez-moi toujours, messieurs, » disait l'esclave. « Voici la salle où se tient le seigneur Kadour. » Un instant après, la portière ayant été soulevée, il s'avançait et, en s'accompagnant d'une profonde révérence, dans la forme du salam alek oriental connu, c'est-à-dire en portant les deux mains à sa tête et en s'inclinant, il disait « Seigneur Kadour, voici les trois étrangers que tu m'as donné ordre de t'amener. » Jacques, Robert et Claude se trouvèrent alors en présence d'un personnage d'une trentaine d'années qui fumait sur un divan d'un travail assez précieux. Sidi Kadour n'était pas costumé comme tous les autres orientaux que nos voyageurs avaient été à même de rencontrer. Son habillement se composait de deux grandes robes, l'une blanche, l'autre bleue, en soie du Soudan. Il portait aussi une espèce de caftan en drap qui descendait jusqu'à terre et un pantalon flottant sur les hanches, attaché autour des reins par une ceinture à coulisses et descendant jusqu'au-dessus de la cheville, où il se terminait très étroit et orné d'une bordure aux couleurs les plus éclatantes. Il n'avait point de bas. Il chaussait seulement des sandales parfaitement confectionnées en cuir rouge, garnies de dessins assez gracieux, faits avec des lanières de maroquin bleu, vert et noir. Un burnous blanc et bleu lui couvrait l'extrémité de la tête. Il était fixé par une tresse de soie rouge sous laquelle passait une légère frange de dentelle qui venait retomber sur le front. À sa ceinture de soie rouge, il portait un grand poignard à gaine d'argent. « Messieurs, dit-il en assez mauvais français, vous êtes ici chez un ami. Considérez cette maison comme étant la vôtre. » Il leur montrait du doigt un divan placé vis-à-vis du sien et les invitait à s'y asseoir. « Djebel, disait-il ensuite à l'esclave, apporte des pipes et du café. » En Orient, toute politesse et même toute conférence, de quelque genre que ce soit, commencent invariablement par les pipes et le café. Si l'on veut témoigner d'une grande déférence pour ses hôtes, on y ajoute un bassin argenté dans lequel un esclave leur lave les pieds suivant l'usage antique. Tandis que l'Abyssin s'occupait d'obéir à son maître, les trois Européens jetaient un regard curieux sur tous les objets qui les environnaient. Dans cette pièce d'un chasseur, il n'y avait sans doute rien du luxe efféminé des grands du pays, mais on était bien éloigné d'y retrouver la simplicité naïve et presque indigente des ruines du palais de la fille de Pharaon. Il était évident que le seigneur Kadour était un personnage de quelque importance. L'esclave ne mit pas longtemps à reparaître. Il revenait en souriant, ayant à la main un plateau chargé. En familier rusé, comme il avait bien deviné que les deux jeunes gens d'Europe ne seraient pas fâchés de goûter aux friandises du pays, il avait mêlé aux pipes et au café, dans un joli petit vase en porcelaine de Chine, des confitures de roses et, tout près, une carafe d'eau glacée. Sidi Kadour fait un signe de la main et l'esclave se retira. « À présent que nous sommes seuls, dit le chasseur de panthères, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la liberté de vous faire venir ici. Tenez, fumez, buvez et mangez pendant que je vais vous conter en deux mots mon histoire. » Jacques se mit en devoir de fumer et de boire d'excellents cafés d'Arabie, non clarifiés comme celui qu'on prend en France. Robert Kergorieux et Claude Marteau goûtaient aux conserves de roses et se rafraîchissaient avec de l'eau du Nil assaisonnée de neige. « Messieurs, dit Sidi Kadour, je suis un membre de l'intrépide tribu des Touaregs. Ce sont des Arabes de vieille race qui vivent dans les sables du Sahara et viennent souvent, dans leurs incursions, faire du commerce avec les indigènes et les colons de votre Algérie. Il y a 20 ans, n'étant encore qu'un enfant, je fus placé sur une barque avec 3 hommes de ma tribu. On s'occupait d'une petite expédition à faire dans l'île de Malte. Je n'ai jamais su au juste s'il s'agissait de piraterie ou de commerce, mais je crois bien que c'était plutôt la première que la seconde des deux choses qui était la pensée de l'entreprise. Nous allions aborder, quand un effroyable coup de vent se déclara et emporta notre coquille de noix jusque sur les côtes de la Sicile. La frêle embarcation pouvait se briser, elle ne fit qu'éprouver des avaries. Un peu de calme la remit en mer, mais dématée, c'est-à-dire incapable de naviguer avec quelque vitesse. Dans une telle situation, elle ne pouvait manquer d'être accostée et prise par les croisières qui sillonnent la Méditerranée. Un navire français nous harponna. « Ce sont des pirates barbaresques, » dit le commandant. « Il faut les pendre tous les quatre à notre grand mât. » On se saisissait déjà de mes trois compagnons, et un marin à larges épaules allait aussi s'emparer de moi, quand le capitaine s'écria. « Quant à celui-là, n'y touchez pas, c'est un enfant. Les Français ne tuent pas les enfants. Qu'on ait au contraire pour lui toutes sortes d'égards. Pourquoi ne deviendrait-il pas un honnête homme ?» Il me prit à son bord, me fit descendre à Marseille, où je vécus 2 ans dans une école et, un peu plus tard, j'obtins la permission de regagner ma tribu. Je suis donc redevenu Touareg, homme du désert comme les miens. Mais, en revoyant nos tentes et nos sables, je n'ai jamais oublié que je devais la vie à un Français. Aussi, en quelque lieu de l'Orient que je me trouve, je m'enquiers, je cherche, je demande. Trouver un Français est plus qu'un plaisir pour moi, c'est une joie des plus vives. J'ai su qui vous étiez tous les trois, je vous ai fait suivre. Djebel, mon esclave, à qui j'ai appris un peu de votre langue, vous a amené auprès de moi et je vais vous rendre un grand service.
Est-ce qu'il va être question d'Horace Verpré ? Se demandait Robert.
Grâce à mes prouesses de chasseur, poursuivit Cadour, mon nom a un très grand retentissement dans tout l'Orient. Presque tous les princes m'ont décerné des récompenses pour plus de 300 panthères abattues par ma lance ou par mon fusil. Ce n'est pas tout. J'ai 4 pieds à terre, un dans le Sahara, un en Égypte, où nous sommes, un autre en Perse et le 4e dans l'Inde. Vous devez comprendre que cette situation me met à même de voir les personnages considérables de ces divers pays. Or, si je suis bien renseigné, vous avez le projet de parcourir plusieurs des contrées que je viens de nommer. Comme vous êtes français, je me mets entièrement à votre disposition.
Pouvez-vous nous faire donner des firmans ? Demanda Jacques.
Je puis mieux que cela. Si respectable que soit ce morceau de parchemin écrit, signé, paraffé et scellé de la main d'un pacha ou d'un émir, qu'on appelle un firman, il y a encore mieux.
Quoi donc ?
Une bague. En parlant ainsi, Sidi Kadour montra aux 3 amis un petit anneau d'or dans lequel était enchâssée une topaze, et sur cette pierre, un tronçon d'un des versets du Coran.
« Voilà, ajouta-t-il, non point un passeport, ce ne serait pas dire assez, mais un talisman doué d'un pouvoir magique et qui vous laissera circuler partout en Orient en parfaite sécurité. » Fussiez-vous entré par mégarde dans le palais d'un sultan ou d'un camp, où nul profane ne doit pénétrer, que cette bague vous en ferait ouvrir les portes. À la vue de la topaze, les geôliers des prisons vous mettraient en liberté, les caravanes vous escorteraient, les mosquées vous serviraient d'asile, les bédouins voleurs du désert eux-mêmes vous respecteraient.
C'est en effet, Seigneur, un anneau d'une valeur inappréciable.
« Nous sommes 500 000 à avoir une bague pareille, » continua le chasseur de panthères. « Ces 500 000 orientaux forment ainsi une franc-maçonnerie redoutable, mais qui n'agit jamais que pour le bien. Vous voyez qu'il y a là une pensée tout à la fois ingénieuse et louable. »
Les 2 jeunes gens ne pouvaient s'empêcher d'ouvrir de grands yeux à l'aspect de la topaze.
« En général, » dit encore Sidi Kadour, « on porte cette bague à l'annulaire de la main gauche. » Mais comme on est exposé à la perdre ou à se la faire prendre, beaucoup des membres de la mystérieuse société des 500 000 musulmans l'attachent autour du cou dans un petit sachet comme une amulette. D'autres encore la fixent à leur poignard ou à leur fusil, bien sûr qu'ils sont, qu'on ne viendra pas y toucher là.
Eh bien, cette bague que je vous donne, où voulez-vous la porter ?
Tout simplement au doigt, répondit Jacques.
De cette façon, on verra tout de suite quel degré de considération il faudra avoir pour nous.
C'est très bien vu, cela, repartit Kadour. Il remit la topaze à Jacques, qui la passa à Robert Kergorieux.
Tiens, dit le marin au filleul de Surcouf, te voilà homme,
C'est pour toi qu'a été entrepris ce voyage. C'est par toi que ce précieux talisman doit être porté. »
Tous les trois se confondirent en longs remerciements envers le chasseur de panthères.
« Je ne fais que ce que je dois, » répondit le Touareg, « puisque je ne vis que grâce à l'humanité d'un Français. »
Les pipes étaient finies. D'ailleurs, le moment était venu où il était indispensable de regagner la caravane. Avant de se séparer, on se salua encore une fois en se souhaitant réciproquement mille choses heureuses.
L'homme des sables était fort attendri. Robert crut devoir prendre la parole.
« Seigneur Kadour, dit-il, comment pourrons-nous vous rendre le bien que vous nous faites ?»«
Tu le pourras en te servant d'un procédé bien simple, mon jeune monsieur. »«
Lequel donc ?»«
Il s'agira tout uniment d'être utile à ceux qui, sur votre chemin, auront besoin de vous. Il n'y a pas de meilleur moyen d'acquitter une dette. » Il n'en est pas non plus qui soit plus agréable à Allah.
Ils allaient se séparer.
Messieurs, je ne vous dis pas adieu, reprit Kadour. Tous, tant que nous sommes, nous ne nous appartenons pas. Nous faisons ce que le maître de toutes choses veut nous faire faire. Qui sait si son souffle tout-puissant ne me poussera pas auprès de vous? J'espère bien avoir l'occasion de me retrouver à fumer avec vous un jour ou l'autre, dans l'un des lointains pays où vous allez. »
Djebel, l'esclave noir, reparut et les reconduisit à l'endroit même où il les avait abordés. Robert Kergorieux était tout à la fois enchanté et surpris de ce qui venait d'arriver. « Quelle chose merveilleuse que le nom de notre France !» s'écriait-il. « Son prestige s'exerce même dans les petites choses de la vie. » Lorsque M. de Chateaubriand courut, écrivain pieux, chercher en Palestine des inspirations pour ses martyrs, il rencontra dans le bourg d'Ascalon des petits enfants à cheval sur des bâtons. Ils jouaient aux soldats et criaient comme nos bambins « En avant, marche !» Cette voix de la patrie, retrouvée tout à coup dans la bouche d'une troupe d'enfants arabes, fit sur l'âme du noble poète une impression puissante. Il pleura malgré lui, et il ne put s'empêcher d'admirer le soldat de génie dont les armes avaient porté la langue et la gloire française jusque dans le pays de Canaan. Ainsi, Jacques et ses deux jeunes camarades étaient profondément émus de cette parole du musulman « Je suis redevable de la vie à un Français. En souvenir de ce bienfait, je veux toujours faire du bien à ceux de votre nation. » Quoi de plus touchant, en effet ?
« Il faut nous hâter !» dit tout à coup Claude Marteau. « Nous n'avons plus que quelques instants pour rejoindre la caravane. Si nous n'étions pas arrivés à temps, les pèlerins partiraient sans nous. »
Ils n'eurent le temps de voir aucune des curiosités de la ville, ni la résidence du vice-roi, qui est d'un beau coup d'œil, ni le vieux palais des califes, ni la mosquée d'Amrou, ni les beaux jardins de Mourad Bey, dont leur avait cependant parlé le marchand d'eau du Nil. « Traversons toujours le grand marché, » dit Jacques. Ce grand marché du Caire est une sorte de champ de foire oriental. Figurez-vous une place des plus spacieuses, où se fait en grand le commerce de tout ce qui intéresse l'Orient, les chevaux, les parfums, les étoffes de soie et de laine, le maïs, les armes. Un baraquement en bois protège un grand nombre d'industries contre le soleil et les intempéries. Il n'y a rien de plus pittoresque à contempler que ce tableau où la variété des costumes et des couleurs produit un spectacle d'une tournure fort originale. Des dromadaires accroupis à terre ou debout devant un peu d'orge donnent encore plus de relief à ces scènes de la vie africaine. Du reste, il ne manque ni de batteleurs, ni de charlatans, ni de promeneurs. En traversant cette grande place, il vint à Robert Kergorieux la pensée d'éprouver pour la première fois la vertu de la bague que venait de lui donner Kadour.
« Que veux-tu faire ? » lui demanda Jacques.
« Regarde et tu verras. »
Le filleul de Robert Surcouf s'était arrêté au bazar, devant la boutique d'un marchand de fruits.
« Donnez-moi, dit-il, des dattes, des oranges et des raisins secs. » Il était servi et s'apprêtait à tirer une pièce d'argent d'une petite bourse en cuir rouge, mais en ayant bien soin de mettre en évidence le chaton de sa bague. Kadour n'avait rien exagéré. Au seul aspect de la topaze, le marchand fit signe à Robert qu'il ne recevrait rien.
« Tu peux prendre tout ce que tu voudras dans ma boutique. Je n'accepterai pas un para. »
Mais à qui devrais-je donner le prix de ces fruits ?
Il ne manque pas de fils d'Allah que cela pourra soulager. »
Robert Kergorieux comprit alors que faire du bien et donner l'aumône par ricochet était sans doute l'excuse et le but d'une association mystérieuse. Ils reprirent leur chemin et retrouvèrent leur rang parmi les voyageurs qui allaient aux villes saintes.
« Allons, il était temps !» disait Claude Marteau. « Voilà les pèlerins qui font leurs préparatifs de départ !»
Peu après, la caravane se remettait en marche. Le négociant syrien, que les trois amis avaient un moment perdu de vue, revint et se retrouva auprès d'eux.
« Ah, messieurs !» leur dit-il en affectant toujours de se servir des formes du langage européen.
« Vous voilà donc enfin ! Figurez-vous qu'il y a près d'une heure que je vous cherchais parce que, très peu de temps après l'arrivée de la caravane, on est venu vous demander. »
Jacques, Robert et Claude étaient, ainsi qu'on le pense aisément, fort intrigués par cette nouvelle.
« Mais qui est venu nous demander ?» dit Jacques.
« Inconnus à l'Orient, nous ne pouvons y être un objet d'intérêt pour personne. »
« Il paraît que si. »
« Mais, encore une fois, qui donc est venu nous demander ?»«
Il n'y avait pas 10 minutes que vous étiez parti qu'un vrai croyant, assez simplement, je pourrais dire assez pauvrement vêtu, s'est approché de moi. Il m'a fait un humble salut. N'est-ce pas là, a-t-il dit, la caravane qui a passé dernièrement auprès du palais de la fille de Pharaon ?»«
Oui, c'est elle. » »«
Ne s'y trouve-t-il pas des étrangers, des hommes d'Europe ?»
Oui, il y en a.
On en compte 3, n'est-ce pas?
Oui, 3.
Ne cause-t-il pas d'habitude avec toi?
Oui, puisque nous sommes sur la même file.
T'ont-ils parlé, par hasard, d'un des leurs, d'un jeune homme de France qui a été enlevé à force de ruse et de perfidie sur la felouque d'un pirate de Tunis?
Oui, ils m'ont dit un mot de cette aventure.
L'inconnu témoignait en même temps d'un grand trouble et d'un grand besoin qu'il avait de s'éloigner.
« Il est bien fâcheux qu'il soit absent, » répétait-il avec une grande volubilité.
« Ah, c'est bien fâcheux.
Mais si tu veux te donner la peine d'attendre quelques instants, tu les verras sans doute revenir promptement. Ils sont allés voir ce qu'il y a de curieux au Caire. Avant 1 heure, ils seront de retour. »
« 1 heure ? Allah sait tout ce qui peut survenir de larmes ou de joie pendant 1 heure. Je n'ai pas à demeurer ici plus de temps qu'un lion n'en met à déchirer une gazelle. J'avais pourtant quelque chose d'intéressant à communiquer à ces étrangers. »
« Quoi donc ?» Il parut réfléchir et hésiter, puis il reprit d'un ton grave.
« Écoute, tu leur diras que leur jeune ami d'Europe n'est pas loin d'ici. »«
Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit béni !» s'écrièrent les 3 chrétiens.
Les 3 Français se disposaient à faire encore bien des questions aux négociants de Syrie quand la voix grave du marabout frappa leurs oreilles.
« En marche ! En marche ! Nous rentrons dans le désert !»